Radio Okapi.
Dites-moi ça ou pour le journal.
Okapi.
Le gouverneur du Nord Kivu confirme le retour de l'autorité de l'État dans la localité de Pinga après le retrait depuis quelques jours du chef de guerre Tchéka. Spoliation de plusieurs domaines de l'État dans la ville de Kikwit-Bandundu, dénonciation de la société civile coordination des Kikwit dans une correspondance adressée au maire de cette ville. Et puis Justin Marie Bomboko, une grande figure de l'histoire de la République démocratique du Congo, est décédé ce jeudi à Bruxelles à l'âge de 86 ans. Son portrait dans ce journal. Bonjour à tous. L'autorité de l'État s'est consolidée de plus en plus à Pinga, localité débarrassée des rebelles Maïmaï du chef de guerre Tchéka depuis quelques jours. Avec l'appui de la MONUSCO, le gouverneur du Nord Kivu a visité hier jeudi cette cité charnière entre les territoires de Massissi et Walikale. Question de consoler ses compatriotes pris en otage pendant 5 années de guerre entre les groupes armés. Mais ces populations voient aussi arriver chez eux depuis 17 ans maintenant une autorité administrative provinciale de ce rang. Pour le gouverneur Julien Paluku, c'est le retour effectif de l'État congolais et il promet par la même occasion les projets de développement pour détourner les jeunes de la PA de groupes armés. Le gouverneur Julien Paluku à Pinga au micro de Jeune Gala.
La population d'ici a longtemps souffert. Il fallait qu'elle voie l'autorité présente ici. Nous sommes accompagnés par la MONUSCO qui aussi avec les FARDC sont en train d'abattre un travail de titan. Nous avons, par notre présence, voulu marquer la présence de l'autorité dans la région de Pinga et lancer un message à tous qui sont encore en brousse que le gouvernement est prêt à les accueillir parce qu'ensemble, nous devons faire la paix. Et après la paix, nous devons maintenant lancer le développement. C'est la raison pour laquelle, parmi les grandes préoccupations, nous allons lancer la réouverture de la route qui va de Pinga jusqu'à Kalembe vers Kichanga. Nous avons lancé déjà le recrutement de 100 cantonniers qui vont être mis sur cette route de manière à permettre à ce que un peu ces gens refassent leur santé financière.
Et puis à l'Équateur, le commissaire provincial en charge de la décentralisation et des affaires coutumières vient d'initier dès ce jeudi une série de concertations avec tous les cadres de la territoriale, actuellement en mission à Mbandaka. L'objectif est de lever des équivoques sur certains dossiers et facteurs qui ont tendance à entraver la bonne application de la décentralisation dans la province. Éclairage avec Dominique Olombi-Mongampangé.
C'est une concertation avec les cadres d'appui conseil auprès des entités territoriales décentralisées, a indiqué le commissaire provincial à la décentralisation, Léon Brunon-Likoku. Cet échange va faciliter l'application du processus de la décentralisation dans leurs entités respectives, car, ajoute-t-il, le développement de l'Équateur en dépend. Cependant, les ETT ont difficile à fonctionner à cause des administrateurs des territoires et surtout des commissaires des districts qui devaient simplement jouer le rôle d'inspection et d'encadrement. De leur côté, ces cadres territoriaux évoquent déjà les manques de moyens suite à la suppression des frais de rétrocession et autres taxes locales dont ils bénéficiaient jadis pour bien mener leur inspection. Le directeur de province, Louis Adoula, rassure. Les processus de la décentralisation évoluent par étapes. Déjà, l'Équateur vient d'annoncer une réforme de sa territoriale pour avoir des cadres compétents. Et le gouvernement alloue aussi des subsides à ces territoriaux pour qu'ils n'obstruent plus l'application de la décentralisation en Équateur.
Au Bandundu, la société civile coordination de Kikwit dénonce la spoliation de plusieurs domaines de l'État dans la ville de Kikwit. C'est au cours d'une rencontre tenue mercredi à la mairie de Kikwit qu'elle a fait savoir à l'autorité urbaine ainsi qu'à tous les services techniques de la ville. Pour la société civile de Kikwit, c'est un phénomène qui s'est bien installé dans cette ville et cela persiste depuis des décennies sans aucune réaction de la part des décideurs. Fabien Kambinzi.
Parmi les terrains spoliés, la société civile cite entre autres les terrains situés entre les parquets de grande instance et la première région militaire, les terrains de la RVA, l'Institut technique et professionnel de Kikwit, pour ne citer que cela. Ces terrains et parcelles ont été acquis illégalement et d'une manière frauduleuse, selon la société civile. Cette spoliation du domaine public de l'État, dénoncée par la société civile, est également confirmée par les services des infrastructures, travaux publics et reconstruction. Selon ces services, plusieurs rapports et propositions de décision ont été faits à la hiérarchie, mais aucune décision définitive de la part des décideurs n'a été prise à ce jour. Le chef de division des cadastres présent à cette séance a catégoriquement nié d'avoir délivré des documents officiels à ses occupants des terrains spoliés jusque-là. Enfin, les participants à cette rencontre se sont mis d'accord pour la suspension des travaux sur tous ces domaines et de mettre en place une commission devant contrôler et enregistrer tous ces domaines déjà spoliés dans la ville. Kikuit, Fabien Kambizi, Radio Okapi.
Et puis au Kasaï oriental, la société minière de Bakouanga réagit à la déclaration du cabinet du gouverneur de province au sujet du lotissement de la concession SU-27. Pour la MIBA, la lettre du procureur général de la République qui demande au gouverneur de suspendre tous les travaux des lotissements du terrain est fondée. François Tshibenji.
C'est par son communiqué du 9 avril que la minière de Bakouanga réagit aux propos du directeur des cabinets du gouverneur de province sur Radio Okapi. Dans ses communiqués, la direction de l'entreprise minière soutient qu'en vertu de la loi portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, le ministère public, en sa qualité de garant de l'ordre public, a la prérogative de surveiller l'exécution des actes législatifs réglementaires des décisions judiciaires. Cette réaction de la MIBA vient 72 heures après l'intervention du directeur des cabinets du gouverneur de province. Dans ses déclarations, Jean-Michel Kasongo estimait malvenu que le procureur général de la République interdise au gouverneur de province de poursuivre les travaux de lotissement du terrain SU-27, terrain que le ministère des Affaires foncières a rétrocédé par arrêté à la province parce que la MIBA n'a pas payé les redevances foncières qui s'élèveraient à plus de 9 millions de dollars. Rappelons que le procureur général de la République estime pour sa part que l'exécution d'un tel arrêté est susceptible de créer des tensions sur la ville. Il faut attendre la décision de la Cour suprême de justice, instance judiciaire saisie par la MIBA. Mbujimayi, François Tshibenji, Radio Okapi.
La République démocratique du Congo devrait cesser d'être un État mafieux. C'est la déclaration que vient de rendre publique la plateforme pour la défense et la promotion des droits économiques, sociaux et culturels d'ESCE RDC en marge de la deuxième conférence minière tenue à Goma au mois de mars dernier. Ces organisations craignent que les recommandations de la dernière conférence minière ne soient pas mises en application et que le processus de litier n'en soit qu'un trompe-œil pour la communauté internationale. Les détails avec Denis Maéo.
La plateforme pour la défense et la promotion des droits économiques, sociaux et culturels d'ESCE RDC constate que les recommandations de la première conférence minière sont restées lettres mortes. Pourtant, elle a coûté des millions de dollars à la République. L'expérience risque de se répéter après les journées minières de Goma. Les ONG du DESC RDC recommandent au chef de l'État de se démarquer des ministres impliqués dans la passation des contrats miniers opaques. Au gouvernement notamment, d'accélérer la réforme de la douane, dont la création d'une commission tripartite. Celle-ci devra lutter contre la fraude douanière dans le domaine minier, particulièrement dans la province du Katanga. Il faut aussi la mise en œuvre d'une feuille de route négociée et contraignante pour améliorer la transparence, particulièrement dans la filière cuivre-cobalt. Ces ONG rappellent que le rapport du Sénat démontre que les recettes provenant du secteur minier échappent au contrôle du trésor public, ce qui constitue un manque à gagner de près de 60% de ces recettes. Lubumbashi, Denis Maheur, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, troisième jour, c'est jeudi, de la grève sèche des transporteurs membres de l'Association des chauffeurs du Congo, ASECO, section Butembo-Beni. Depuis mercredi, en effet, tout mouvement des véhicules sur les axes routiers Butembo-Beni-Kassindi reste suspendu. Selon les transporteurs, le FONER récolterait en moyenne 10 000 dollars américains chaque jour, avec des taxes perçues sur les bus, minibus, voitures et camions de passage. Mais rien n'est fait pour réparer les routes. Le directeur provincial du FONER indique que les travaux sur l'axe Beni-Butembo devraient avoir déjà commencé ce vendredi, mais les grévistes disent attendre voir les tracteurs sur le terrain avant de réagir. Terminons par cette triste nouvelle. Un des pionniers de l'indépendance congolaise, Justin-Marie Bomboko, n'est plus. Il est décédé hier aux cliniques universitaires Saint-Luc de Bruxelles à l'âge de 86 ans, de suite d'une longue maladie. Découvrons ce que fut ces dignitaires de l'Ordre national des Léopards. Son portrait avec Jeff Ngoy.
Il était jusque-là un des survivants des pères de l'indépendance congolaise. Ceux qui l'ont côtoyé témoignent de lui des qualités d'un homme politique qui détestait le mensonge et la malhonnêteté. Son courage politique était de dire la vérité quand il le fallait, confie Denis Tabiana, dirigeable de King au Sénat. Premier ministre des Affaires étrangères du Congo indépendant en 1960, Bomboko était considéré comme une des icônes de la politique du pays pour avoir participé avec Patrice Emery Lumumba à la signature de l'acte et consacrant l'indépendance du Congo belge. Il était le premier Congolais diplômé de l'Université libre de Bruxelles. Après avoir neutralisé Kasavubu et Lumumba, Mobutu avait fait de lui président du Collège des commissaires généraux, puis vice-commissaire d'État des affaires étrangères, enfin ambassadeur de la RDC à Bruxelles et à Washington. Ses toutes dernières fonctions politiques exercées au pays étaient celles de sénateur au Parlement de transition. Considéré par d'aucuns comme une grande bibliothèque de l'histoire de la RDC, il s'en va avec toute sa bibliothèque, ne laissant aucun manuscrit derrière lui, mais une famille nombreuse.
Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.